Alors, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Le trajet que je vous propose, c'est de voir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, on s'est arrêté à Jésus hier, Jésus qui était l'image de Dieu. On peut avancer, Pascal. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On a fait la semaine dernière un survol de Jésus dans l'Ancien Testament, ou Dieu dans l'Ancien Testament. On peut avancer. On a vu les noms de Dieu. Et j'ai vu cette semaine, il y avait un reportage que Allah a 99 noms. Et il y a une chose que Mahomet a dit de correct, d'après moi, c'est ça. Vraiment, de mettre l'emphase sur qui est Dieu. Dieu, le nom de Dieu, ça nous révèle qui il est. Qui il est. Alors, avec tous les le mot « elle » qui veut dire Dieu, mais avec un attribut. Et si dans nos Bibles, on lit les psaumes, par exemple, et on colore tous les attributs de Dieu, tous les noms de Dieu, vous allez voir surgir un portrait de Dieu comme on ne l'a jamais vu. Et puis, ça nous reste. Tantôt, on chantait des cantiques. Et puis, c'est les noms de Dieu qui ressortaient. Il y a aussi, si on avance, Yahvé, l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel. Il est enlevé 6519 fois, vous voyez. Il y a Adonai, qui faisait mon Seigneur ou mon Maître, 434 fois. Shaddai, 300 fois. Alors, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de très, très, très important. Même les Juifs pieux ne prononçaient pas le nom Yahvé, de peur de prendre le nom de Dieu en vain, imaginez. Mais quand on prononçait le nom de Dieu, on entrait dans un domaine spécial. Alors, ensuite de ça, on a vu que Jésus était là avant. On avance. Jésus a révélé le Dieu en trois personnes. Il était là avant. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique l'a fait connaître. Il est l'image du Dieu invisible. Nul n'a vu le Dieu, n'a vu le Père, c'est lui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, Jésus arrive dans le portrait et lui qui était en arrière-plan dans l'Ancien Testament prend le premier plan puis il révèle la Trinité. Il révèle qu'il y a un Dieu en trois personnes. On avance? Alors, qu'est-ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté la vie. Il est mort à cause de ça. On avance. Et on avance encore. Il y a toutes les... On avance, pas recul, oui. Alors, toutes les « il est » dans l'Évangile, on arrive dans les Évangiles, et là, Jésus dit qu'il est le temple de Dieu. Détruisez ce temple, puis il va le rebâtir en trois jours. Il est le souverain sacrificateur, comme dans Hébreux. Il est Jonas. Il est le serpent d'airain, le rocher, le nouvel Adam. Alors, quand on lit l'Ancien Testament, avec toute cette nouvelle révélation-là de Dieu, on voit Jésus qui apparaît, là aussi, dans l'Ancien Testament. Et là, il y a les « Je suis » aussi. Pascal. En avant. Alors, tous les « Je suis » dans les Évangiles, il dit qu'il est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, Maître et Seigneur, serviteur, je suis doux et humble de cœur, il est la lumière du monde, la vigne, le pain de vie, le bon berger, la porte des brebis, la résurrection et la vie. Alors là, on met des noms, on met des images, on met des attributs à qui est Dieu, et ça nous révèle la personne de Jésus-Christ. Et pour ceux qui étaient là, on est allé à Capernaum. Hein, j'ai fait un petit montage de Jésus qui a vécu à Capernaum. J'ai mis les pieds dans la synagogue où Jésus a prêché, où Jésus a été élevé, si on peut dire, et Jésus a enseigné. Alors, on a vu ça ensemble. Et ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'il y a un point tournant dans l'histoire de l'humanité, et c'est la croix de Jésus. La croix de Jésus-Christ, c'est un point tournant dans l'histoire de l'humanité. La mort et la résurrection de Jésus a changé l'histoire. Qu'est-ce que veut dire Jean 3,16, Pascal? Qu'est-ce que ça veut dire Jean 3,16? Quel rapport y a-t-il entre la croix, quelque chose d'horrible, quelque chose de terrible, et l'amour de Dieu? Quel rapport y a entre ces deux choses-là qui semblent être opposées? La croix qui est quelque chose de méchant, quelque chose de laid, quelque chose d'horrible, et l'amour de Dieu. On va voir, il y a une dizaine de termes pour exprimer ce qui s'est passé à la croix. On va en voir deux ce matin, puis on va voir les autres au fur et à mesure. Et après ça, on va aller dans « Où est Dieu? Où est Jésus maintenant aujourd'hui? » OK? Dans les prochaines semaines. Mais ce matin, on se concentre sur qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Alors, une explication de l'amour de Dieu qui est manifesté envers nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Il nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Comme victime expiatoire. On va faire un zoom sur ce qui s'est passé à la croix, c'est un sacrifice. Il s'est passé un sacrifice. Pour nous, dans notre société, un sacrifice, on ne sait pas trop c'est quoi. Pour nous, les chrétiens, ben c'est quelque chose de plus connu. Je ne vous apprends rien ce matin, hein, qu'à la croix, il y a eu une victime expiatoire. Mais on va voir que ça a des conséquences. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est que nous qui étions coupables, nous qui étions pécheurs, nous qui étions condamnés, tout à coup, on est déclaré juste devant Dieu. Comment un pécheur coupable qui mérite la condamnation, qui était déclaré coupable, comment est-ce que cette personne-là peut être déclaré juste? Il y a quelque chose qui doit être compris là. Hein? Et la réponse, c'est qu'il y a une victime qui a été sacrifiée. Il y a eu un sacrifice, un holocauste. Il y a un sacrifice qui a fait que ceux qui sont pécheurs, ceux qui ont commis des fautes, maintenant sont déclarés justes. Dans l'Ancien Testament, on pouvait, si on avance, Pascal, si quelqu'un avait commis une faute, excusez pour le sang, là, mais un coupable qui avait commis une faute dans l'Ancien Testament, il prenait une de ses brebis qui lui appartenait ou bien qui avait acheté, il fallait qu'elle lui appartienne, c'est une brebis sans tache, mâle, et dans la deuxième portrait, on voit que le pécheur mettait ses mains sur la brebis. Pourquoi? Parce qu'il transférait sa faute, il transférait ses péchés qu'il avait commis sur la bête qui était innocente. Ensuite de ça, on égorgeait, on sacrifiait l'agneau, on répandait son sang, et le sang qui était répandu, ça voulait dire que cet agneau-là a payé de sa vie pour le péché qui a été commis. On répandait son sang autour de l'autel. C'est comme ça que celui qui était pécheur, l'Ancien Testament, était déclaré juste devant Dieu. Et on arrive dans le Nouveau Testament, hein, Pascal? Et Jean-Baptiste, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jésus, sans défaut, sans tache, a pris sur lui. On a déposé sur lui nos péchés. Ou nos péchés ont été déposés sur lui. Il a pris mon péché, il a pris ma culpabilité, il a pris ma condamnation. Il a été sacrifié, il a été immolé. On lui a pas tranché la gorge, mais on a percé. Hein? Son sang a été versé jusqu'au point où il y avait plus de sang qui coulait, c'était de l'eau qui coulait. Son sang a été versé. Et ce sang-là a prouvé que Jésus avait donné sa vie, qu'il avait payé pour les péchés que moi j'avais fait, que nous avions fait. Alors, pour, à l'époque, de comprendre ce qu'était le sacrifice et de dire que tout ce qui s'était fait dans l'Ancien Testament s'était accompli maintenant en Jésus-Christ, c'était wow! C'est pas, il n'y a pas un agneau qui peut enlever le péché d'une autre personne. C'était prophétique, c'était quelque chose de symbolique, quelque chose qui annonçait que le vrai sacrifice allait avoir lieu à la croix. Et il y a eu lieu il y a 2000 ans. Alors, est-ce que ça s'est arrêté à la croix? Ça s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça s'applique encore aujourd'hui, hein, Pascal? Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Hein? C'est ce qui se produit aujourd'hui. Ça a été accompli il y a 2000 ans. C'est appliqué à ma vie maintenant, on avance. On lit dans 1 Jean que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans le grec, le purifier, là, c'est un présent continu. Ça nous continue à nous purifier sans arrêt. Le sang de Jésus continue à nous purifier sans arrêt. Ça se passe présentement, ça se passe ce matin. T'es venu ici avec une conscience qui est lourde, t'es venu ici avec quelque chose sur la conscience, quelque chose avec laquelle tu luttes peut-être, et tu n'as pas la paix avec ça. Ben, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, il continue à couler. Aujourd'hui, continuellement. Et il coule ce matin à l'Oasis, il coule ce matin dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous lave, il nous sanctifie, il nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, s'il y a vraiment une conscience qu'on n'est pas correct, qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes, et qu'on le confesse, on dit « Seigneur, je suis pas correct. Hein? » Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Qui ne veut pas avoir un cœur pur, un cœur purifié, un cœur lavé? Si je gratte dans mon cœur, c'est pas ça que je vois. Mais si j'applique le sang de Jésus, si je confesse mon péché et je l'applique sur mon cœur, dans ma conscience, c'est ce que je vais voir, c'est ce que je vais trouver. Si on gratte assez, là, si un enfant de Dieu gratte assez dans son cœur, puis il enlève toute la crasse, tous les péchés qu'on peut commettre dans une journée, on va trouver un cœur pur, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est saint. Et on a ce privilège-là de confesser nos péchés et de recevoir le pardon de Dieu aujourd'hui parce que ça s'est produit, c'est déjà accompli il y a 2000 ans à la croix. Amen. Il y a un danger, même pour des chrétiens. Et on voit ça souvent dans les forteresses. Trop vite, Pascal. Mais c'est pas grave. Tu peux le laisser. On n'a pas la manette ce matin. Peut-être deux erreurs ou deux choses qu'on peut faire à ce sujet-là, au sujet d'expier nos péchés. Il y a un danger d'essayer d'expier mes péchés par mes performances. Je sais, je ne suis pas un bon chrétien, je devrais faire ci, je devrais faire ça, puis là, on, on fait des plans pour essayer d'être meilleur, et puis, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de gagner la faveur de Dieu, de mériter la faveur de Dieu. Si je fais telle chose, le Seigneur va m'aimer. Hein? Ça veut dire qu'il t'aime pas, là. Et ça, c'est subtil. C'est subtil. Parce que la motivation, c'est plus... Je suis plus motivé par l'amour de Jésus. Je suis motivé par la peur. Hein? Je suis encore dans, on pourrait dire, sous la loi. Je suis encore dans le maître qui était la loi. J'ai pas compris quelque chose qui s'est passé à la croix. J'ai pas compris que mes péchés sont expiés. Ça, c'est une... Essayer de gagner la faveur. Est-ce que je suis en train d'essayer de gagner la faveur de Dieu? Oh, je suis pas... Faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça, puis je pense que c'est bon. Puis... Et il y en a un qui était... Il a poussé ça à l'extrême. Je dirais l'autre extrême, c'est se taper dessus. Se punir. S'apitoyer sur son sort. Qu'est-ce que Judas a fait? Sinon, que de se punir lui-même. Je vais subir, me punir moi-même comme ça. Dieu me punira pas, je ne sais pas trop c'était quoi son plan. Judas s'est apitoyé sur lui-même. Au lieu de, si nous confessons nos péchés, hein? Si nous, et ça, c'est des façons d'éviter, je dirais, de plaider qu'on est coupable, de plaider qu'on n'est pas correct, essayer de gagner la faveur de Dieu ou de se taper dessus, se dévaloriser, au lieu de saisir le pardon de Dieu. Il n'y a qu'une seule façon d'être pur. Une seule façon d'être purifié, c'est que le sang de Jésus vienne me laver, me purifier de toutes ces... Hein? Si nous confessons nos péchés, nous allons goûter au cœur pur. Je nous souhaite de goûter le plus souvent, le plus longtemps possible, la pureté. Un cœur pur. Pensez-vous que c'est possible? Mon frère, ma sœur, t'as le cœur pur. T'as juste à gratter. Fais le ménage et tu vas trouver un cœur qui est déjà purifié. Il y a un autre verset qui dit que Jésus nous a amenés à la perfection pour toujours, déjà. C'est déjà accompli, il nous reste à l'appliquer dans nos vies. Alors, grattons, nettoyons, purifions, confessons nos péchés avec un cœur sincère et on va goûter la pureté. Il n'y a rien de meilleur que de goûter à la pureté d'un cœur pur. Alors, là, on peut avancer. On a déjà vu tout ça dans les sens essentiels, n'est-ce pas? Le sacrifice expiatoire. Mais je voulais ramener ça parce que c'est important. Alors, ça, c'est les autres perspectives de la croix. C'est comme si on a une carte de Montréal, tu peux avoir une carte à vol d'oiseau en avion. En question, ceux qui ont vu Montréal à vol d'oiseau le soir, en avion. En avion, c'est mieux. Carte du métro, souterrain, carte touristique avec tous les endroits. Il y a toutes sortes de cartes qu'on peut regarder, la ville de Montréal. Et c'est ce qu'on va faire. On va regarder le salut qui est accompli à la croix. On a une première carte qu'on a vue, le sacrifice expiatoire. Et la deuxième qu'on va voir ce matin, c'est la substitution. Qui est relié au sacrifice expiatoire, mais c'est un zoom différent sur un point en particulier sur l'expiation. Qu'est-ce que c'est que l'expiation, pardon, la substitution? Alors, le mot le dit, c'est une personne qui va exposer sa vie, qui va donner sa vie, qui va se donner, si on peut dire, pour le bien des autres, pour aller secourir les malades en Afrique. Hein? Quelqu'un qui va laisser de côté son confort, sa sécurité, puis il va faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin. C'est assez répandu, des soldats qui donnent leur vie comme ça. Hein? Il y a un policier, je pense qu'il y a deux semaines, la semaine dernière, il y avait une auto en flamme, il y a une femme qui était prise dans l'auto. Et le gars, il était pris par un réflexe divin. Hein? C'est un réflexe qui vient de Dieu. Il est allé chercher la madame, puis il a sorti de l'auto avant qu'elle explose. Alors, ça, c'est héroïque. Hein? C'est quelqu'un, on donne des médailles à des personnes qui ont fait des gestes comme ceux-là. Il y en a un, on peut avancer, Omar Khan. On parlait d'Ebola avec Jean-Pierre, mais ça, c'est des gens de la Croix-Rouge qui sont allés dans un quartier qui était mis en quarantaine. Et il y a 240 qui ont attrapé la maladie, 120 qui sont morts à partir de maintenant. Ça, c'est les soignants, là, qui sont morts. Dans un quartier qui est en quarantaine. Tu sais que l'Ebola, là, tu as une chance, je ne sais pas sur combien, de l'attraper, s'ils vont pareil. Et Omar Khan, c'est un médecin, 39 ans. Il était le seul spécialiste des fièvres hémorragiques de son pays. Il est mort du virus Ebola le 29 juillet dernier. Depuis des mois, il passait 12 heures par jour à sauver des vies, ce qui est un formidable sacrifice. Et il a dit à la BBC, « J'ai peur pour ma vie parce que je l'aime, parce que j'aime ma vie. » Il avait le sentiment de faire quelque chose de sa vie. Hein? Et ça, je pense que c'est un reflet de ce que Dieu est. Hein, Pascal? Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus est venu accomplir. On a été créé à l'image de Dieu, puis quand on voit des choses comme celles-là, on dit, ça ressemble à Dieu. C'est un reflet de ce que Dieu est, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va se dévouer pour venir en aide, secourir des gens qui sont... Il y a des textes incroyables dans l'Ancien Testament. Il y a Moïse qui, après l'épisode du veau d'or, là, hein, ils se sont fait des dieux d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Un livre de vie. Moïse dit, je ne veux pas aller au ciel tout seul. Hein? Il était prêt à changer de place, on peut dire, se substituer à son peuple. Si, hein? Et Paul, dans Romains, dans le Nouveau Testament, il dit quelque chose d'incroyable. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères et ceux de ma race. Si c'était possible, j'irai en enfer pour que ceux de ma race soient sauvés. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Est-ce que je suis rendu là? Pas sûr. Mais on peut voir le don de soi à l'extrême, le pousser à l'extrême. C'est, ils étaient prêts à aller en enfer, à leur place. Alors, le mot comme tel, substitution, il n'est pas employé. Si on fait une recherche, ça va être plus des mots qui vont dire pour vous ou à notre place. On l'a dans la suite, Romains 8, 32. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Hein? L'expression pour nous. Et il est mort pour des impies. Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'idée de substitution, mais ça va plus loin la substitution si on avance. Il l'a fait devenir péché pour nous. Alors, le péché que moi, je portais, il a été transféré. Jésus s'est substitué à moi. Et sa justice a été transférée sur moi. Jésus est devenu péché. Je suis devenu justice. Wow! Jésus est devenu, je suis devenu justice. Pas en moi-même, mais à cause de ce qui s'est passé à la croix. Il y a une substitution. Jésus nous offre aujourd'hui, ce matin, il dit, veux-tu faire un échange avec moi? Je vais prendre tout ce que tu as dit de pas correct, tout ce que tu as fait de pas correct, tout ce que tu as pensé de pas correct dans ta vie, même s'il y en a une montagne énorme, même si tu penses que tu es impardonnable. Je vais faire un échange avec toi. Tu me mets ça sur les épaules et moi, je vais prendre mon vêtement blanc, mon vêtement qui est pur, mon vêtement qui est saint, mon vêtement qui est juste, et je vais le mettre sur toi. As-tu fait cet échange-là dans ta vie, un jour? Sinon, tu peux le faire maintenant. Seigneur, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas correct, que j'ai fait des fautes, que j'ai fait des erreurs, et que je mérite ce que j'ai récolté, dans le fond, à partir de maintenant, et je mérite ce qui s'en vient aussi. Je reconnais ça. Mais Seigneur, je crois à ce qui s'est passé sur la croix. Je crois que lorsque tu es monté sur la croix, tu as pris tout ça. Tu as pris ça de sur mes épaules. J'étais écrasé sous le fardeau. Et tu as pris ça sur toi. Et tu as payé à ma place ce que moi je méritais. Et maintenant, je veux recevoir cette sainteté, cette justice, cette pureté du cœur. Et avoir une nouvelle vie pour toi. Alors, il a porté lui-même nos péchés. Fais-le. Fais-le dans ton cœur maintenant. Seigneur, je ne suis pas correct. Il n'y a rien que je peux faire pour changer ça. Seulement que d'accepter ce que tu as accompli à la croix pour moi. Je l'applique dans mon cœur, maintenant. Et j'ai un nouveau cœur. La bonne nouvelle, à partir de ce moment-là, je reçois un nouveau cœur qui va aimer Dieu, qui va aimer suivre le Seigneur, qui va aimer la sainteté, qui va aimer la justice, la pureté. Amen. Il y a un rapport entre Jean 3,16 qu'on a vu tantôt. Est-ce qu'on voit le rapport entre la croix, le sacrifice de la croix et l'amour de Dieu? La croix, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour l'humanité. Un père qui donne son fils, un fils qui donne sa vie, qui se substitue à un méchant, si on peut dire, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Est-ce que quelqu'un qui donnerait sa vie, on peut avancer, quelqu'un changerait de place avec lui? Avec un criminel? Condamné à mort? Exécuté? Est-ce que je pourrais dire, je vais faire ça pour lui? Quelle serait l'explication? Si maintenant tu choisissais d'aller à sa place, quelle explication on pourrait donner à ça? Substitution. Mais la raison? Pourquoi je me substituerais à ce gars? Oui. Ah, OK, oui, c'est un aspect que je n'avais pas pensé, mais elle dit, moi, je suis sauvé, fait que je vais aller te sauver. Mais c'est simple, c'est l'amour. Un amour inconditionnel, incomparable, un amour infini pour cette personne-là. Hein? quelque chose qui nous dépasse. Si moi, je donne ma vie pour cette personne-là, imaginez, c'est un geste d'amour. Et si j'échange la vie de mon fils, c'est la même chose, hein? Imaginez la valeur que cette personne-là a. Essayez d'être plus clair, hein? Si je donne ma vie pour cet homme-là, ou je donne mon fils à la place de cet homme-là, quelle valeur a cet homme-là maintenant pour moi? À moi, la valeur d'un fils. Hein? Et c'est exactement ce qui s'est produit si on lit les... Comme Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Combien le Père aime le Fils, d'après vous? Combien est-ce que Dieu le Père aime son Fils? Big, hein? C'est assez big. Mais il dit, « Comme le Père aime le Fils, je vous aime. » Mon frère, ma sœur, si tu comprends ce matin ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Si on comprenait à quel point Dieu nous aime, notre vie ne serait plus jamais la même. Valeur extrême. Il a fait de nous ses fils et ses filles adoptifs. Jésus a fait de nous son épouse. On a une valeur infinie à ses yeux. Et si je saisis, je comprends jusqu'à quel point Dieu m'aime, je vous dis qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Si je comprends l'amour de Dieu, il n'y a rien qui va m'empêcher. Il n'y a aucune tentation au monde qui va me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune épreuve au monde qui va me séparer de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? On lit ça dans Romains. Comment ça se concrétise dans ta vie, dans chacune de nos vies? Juste cette semaine, je vous donne comme, on va dire, des devoirs, mais pas que ce soit un devoir, une soif. Hein? Seigneur, il me semble que je reste en pas ton amour. Hein? Ça fait longtemps, Seigneur, je n'ai pas expérimenté ton amour dans mon cœur. Je sais que tu m'aimes, c'est écrit, je le lis, mais comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu. Et si chacun d'entre nous, on goûte à l'amour de Dieu cette semaine, wow, je ne suis pas inquiet pour le reste. Je ne suis pas inquiet pour le reste. Alors, on a vu un petit portrait, on va prier. On a vu juste un petit portrait de ce qui s'est passé à la croix. On va en avoir d'autres dans les prochaines semaines. Mais prions ensemble. Seigneur, il y a peut-être quelqu'un ici qui souffre dans sa conscience, Seigneur Dieu. Pas la conscience en paix. Tu es fidèle et juste pour nous. Je veux goûter à cette pureté. Je reconnais, Seigneur Dieu. Mes pensées ne sont pas correctes. Mes désirs ne sont pas corrects. Et maintenant, en ce moment, je te demande pardon. Sincèrement, du fond du cœur. Et je reçois ton pardon pour aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Entends, Seigneur, et réponds. On s'attend à toi. Amen.